Bonjour à tous, enchanté de vous retrouver pour ce nouveau magazine de la moto tous les dimanches de 11h à 12h30 sur Campus Lille 106,6 ou www.campuslille.com. Aujourd'hui, la moto tout-terrain à l'honneur avec, dans cette émission, Guy Pilarczyk. Guy, bonjour.
Salut la miche, avec un programme assez chargé, je crois, aujourd'hui. Hein.
Alors effectivement, notre invité, Philippe Waterloo, président de la commission enduro à la Ligue des Flandres.
En effet, c'est un tout nouveau président qui va nous parler de cette commission, des épreuves, etc.
Voilà, et aussi un pilote d'enduro, il fallait inviter aussi un pilote, Jean-Michel. Bonjour, mais on n'a qu'un seul micro. Alors, il faudrait préciser aux auditeurs qu'aujourd'hui, l'émission est enregistrée parce que dimanche, aujourd'hui, nous sommes en balade.
En effet.
Voilà. Nous allons revenir sur le décès de Steven Lenoir qui a fait une terrible chute aux essais le week-end dernier au motocross de Cassel. Steven, pilote professionnel, avait gagné le championnat d'Europe et le championnat d'Angleterre aussi.
En effet. Il a aussi participé au championnat du monde de MX GP. On a été à RD la semaine dernière. Hein. Je ne sais pas s'il était là, mais il avait déjà marqué 3 points en Allemagne cette année.
Très bien. Et puis, un autre point, le retour sur le Grand Prix de France de motocross à RD. Hein.
Oui, alors...
Fantastique. Hein. Moi, j'ai assisté. C'est terriblement impressionnant.
Et toi qui as vu pour la première fois un Grand Prix, des Grands Prix de vitesse, tu as déjà
à mon
vu.
Âge.
À ton âge, ouais, toi, ils vont toujours découvrir. Hein. Et c'est vrai que c'était grandiose.
Alors, on va raconter un petit peu comment est le circuit. Hein. Je ne sais pas si... peut-être que Philippe le connaît, Arnais, le circuit de motocross.
Alors, bonjour à tous. Non, malheureusement, je n'ai jamais été voir le motocross d'Arnais, mais c'est un motocross qui est quand même bien réputé et qui, je pense, est assez impressionnant.
Le terrain par lui-même, est-ce que tu le... Tu le connais.
Je le visualise de l'extérieur.
C'est une espèce de cuvette hein, qui est avec d'un côté les spectateurs et d'un autre côté la piste.
Tout à fait.
Et ce qui permet aux spectateurs de voir totalement la piste.
À 90%.
95% presque. Hein. Mis à part le départ qu'on ne voit pas trop, il y a des endroits, mais voilà. Et puis, on va avoir Aurélien Lehoucq en direct du Tourist Trophy, en direct de l'apéro des Français.
Ah, l'apéro des Français.
C'est ce que c'est, Guy, l'apéro des Français.
Ah oui, ça, il faut jamais...
Parce qu'on enregistre ces missions, il est 20h et des brouettes, là, et à cette heure-ci, là-bas, à l'île de Man, le mercredi, c'est une tradition, c'est toujours l'apéro des Français. Donc est-ce que tu as déjà été à l'île de Man?
Ah oui, et puis j'étais surtout à l'apéro. Hein. C'était spécialement pour l'apéro. Que les courses.
Très bien, bonjour Laurent.
Eh bien, bonjour à tous. Et on démarre en moto.
Trouble flow like a stream my way. More times than not I can pay. Well, east and roll, try to make it through. Thank God I have you. Life's filled with hardship and pain. Makes no sense to complain. Well, grit your teeth and hope your aim is true. Thank God I have you. Sometimes I wanna run, other times I wanna get a gun. Well, a condominium is something I could use. Always been the goal, my friend, is making to the end. When I like the way you
patient flees a worried mind. Mind flew way back sometime. We'll watch the dark gray sky turn to blue. Sometimes I wanna run, other times I wanna get a gun with a condominator, something I could use. Thank God I have you. Thank God I have you.
La moto tout-terrain, aujourd'hui à l'honneur dans cette émission avec Guy Pilarczyk. Guy, on va revenir donc sur cet accident qui s'est déroulé donc le week-end dernier au motocross de Cassel.
Oui, en effet, il y a un pilote, Steven Lenoir, qui a été champion d'Europe en EMX il y a quelque temps. Il a disputé le championnat du monde MXGP. Cette année, il avait marqué 3 points en Allemagne. Il a terminé 8e à l'enduro du Touquet cette année. Et voilà, bon, une chute toute bête. Comment s'est passé l'accident? Il y a plusieurs versions. Mais là, ce qui se passe, c'est que dans les motocross actuels, on met des tables. Des tables, c'est-à-dire que c'est des tremplins avec la moto qui monte à peu près assez haut.
30-40 mètres, facile.
30-40 mètres, hein, et puis...
30-40 mètres d'hauteur.
Non, 3-4 mètres.
Non, 3-4 mètres, non.
Alors, c'est pour le public, hein. Il faut du spectacle. Bon, il y a plusieurs années, ça n'existait pas. Parce que c'est quand même artificiel, c'est pas naturel. Qu'est-ce que t'en penses, Philippe ?
Moi, j'en pense que c'est un obstacle qui est assez répandu sur les terrains de motocross. Qui assure, comme tu dis très bien, le spectacle. T'as pas trop droit à l'erreur sur une table, il faut vraiment bien faire ton saut pour bien te réceptionner dans la descente. Et quoi, s'il peut arriver malheureusement un incident quand tu es en l'air, ça peut être problématique et c'est ce qu'on a vécu lundi.
Alors, il faut bien expliquer ce que c'est qu'une table, hein, parce que moi je.
Alors une table,
je
ne sais pas,
une table,
elle se compose.
Alors c'est une espèce de but, mais elle va avec un. C'est pas rond, arrivé au sommet, non, c'est plat.
C'est plat. En fait, il y a un appel, il y a la montée qui est un appel, après on a une partie plate et après on a la descente.
Et cette partie plate fait combien de longueur?
Bah, tout dépend des circuits, hein. Ça peut monter à
40
mètres. 40 mètres, ça fait beaucoup quand même.
30 mètres de long.
30 mètres.
Pas beaucoup, mais ouais, des tables de 25-28 mètres, ouais, effectivement, on a vu ça. Ouais.
Bah, tout dépend des circuits. Hein,
Donc pour le pilote, pour franchir cette table, c'est de prendre un élan assez important à l'origine.
Tout à fait.
Dans le départ, et de manière à revenir à l'autre extrémité de...
Voilà, pour pouvoir atterrir au niveau de la descente, pour pouvoir perdre le moins de temps possible.
Parce que si on vient atterrir sur le plat, ça fait mal.
Ça fait très mal, ouais. Ça fait très mal, et on perd du temps.
Et on perd du temps.
Donc dans le motocross, le but, hein, c'est comme en enduro, c'est d'aller
c'est
le plus
comme,
vite.
C'est comme partout, dans le sport.
Donc, suite à ce décès, les pilotes ont décidé de pas faire cette course, bien que certains voulaient, toujours en mémoire de Steven, mais Potisek Milko qui avait un peu lancé le truc pour annuler malheureusement cette course. Et cette course, tu vois, bizarrement, c'était le trophée Timothée Potisek, décédé voici 5 ans.
En 2010.
En 2010. Déjà 7 ans. Et surtout que Steven Lenoir avait gagné l'année dernière à Cassel.
Tout à fait.
Donc,
Alors c'est un pilote qui connaissait quand même le circuit, quand même.
Qui connaissait le circuit, oui. Mais bon, est-ce qu'il y a eu, comme tu disais, une casse, le moteur
alors
qui s'est arrêté.
On parle d'acérage.
On parle du moteur qui se serait éteint quand il était.
Ça peut effectivement faire un accident comme ça.
Ah ben, ça peut provoquer une difficulté pour justement gérer sa piste d'atterrissage.
Cette distance là où il faudrait atterrir là, juste au pile poil au bon endroit, quoi.
Puisque grâce au moteur ou grâce au frein arrière, on arrive à stabiliser la moto et arriver à la mettre à l'endroit où on veut.
Alors quand on est en l'air, on arrive aussi à faire à corriger l'assiette de la
tout
moto.
À fait, hein. Tout à fait.
En accélérant
ou en freinant.
Voilà. On arrive à corriger l'assiette de la moto.
Exactement.
Je savais pas ça. Hein.
C'est une tactique spéciale au crossman, quoi.
Au crossman, mais aussi aux enduristes.
Aux enduristes aussi,
ouais. En tout terrain, voilà. Alors, un enduriste va sauter moins haut, va sauter moins loin. Mais c'est utilisé aussi quand en enduro, on peut être un peu surpris par un saut. C'est une technique qu'on sert aussi pour éviter de passer au-dessus de la moto ou d'atterrir sur la roue arrière, quoi.
Voilà.
Et apparemment, c'est un pilote professionnel parce qu'il avait gagné déjà le championnat d'Europe. Et le championnat d'Angleterre.
Je te disais, il faisait aussi le championnat du monde de MXGP. Il avait marqué 3 points cette année en Allemagne. Alors, est-ce qu'il était ARD? Parce que je ne l'ai pas vu sur la liste. Mais ARD, c'est pareil. Bon, ils prennent toujours les meilleurs temps. Hein. Il faut 35 pilotes au départ. Bon, s'il fait le 36e temps, il n'est pas pris, quoi. Hein. Voilà. Donc, le motocross français est en deuil. Avec cette disparition d'un pilote qui avait 25 ans.
D'un jeune pilote talentueux.
Talentueux. Hein, c'était pas... Il faisait pas le fou, quoi. C'était vraiment un pilote professionnel. Hein.
Tout à fait.
Le Grand Prix de France de motocross, c'était Arnais, c'était les 26 et 27 mai. Et on y était.
En effet, Kikaku était sur place hein, pendant ces trois jours, parce que ça a commencé le vendredi, le samedi et le dimanche. Alors avec un programme assez chargé, il y avait le championnat européen de motocross 125, 250, le championnat du monde de MX GP, MX2 et le championnat du monde féminin. Avec notre Livia Lancelot qui avait gagné le samedi, bien qu'elle était partie septième.
Elle est mal partie quand même. Hein.
Elle était partie bizarrement, au milieu de la ligne de départ, de la grille de départ, voilà. Et elle était mal partie.
Ah, si j'ai bien compris, il vaut mieux être toujours sur l'extérieur.
Tout dépend.
Que se mettre au milieu ou à l'inverse de la ligne.
Ou l'inverse.
Au premier virage, quoi.
Ouais, voilà. Et bon, elle était mal partie, mais elle a vite remonté sur des pilotes hollandais qui étaient partis. Non, pas hollandais, c'était un pilote, hollandais, pardon, Van de Ven Nancy, qui était parti en tête. Et sa plus proche rivale, c'était une Italienne... Clara Fontanesi.
Fontanesi. Alors ça, je me souviens.
Ouais. Mais alors, ce qui était...
Elle est super mignonne.
Ouais.
Hein ? On l'a vu dans les paddocks, après...
Et je l'ai pris en photo.
Et tu l'as pris en photo.
Ouais,
T'as bien fait.
Parce que le paddock était grand pour chercher toutes les filles.
Ah, le paddock est grand. Et l'avantage au motocross, c'est qu'on peut facilement aller dans le paddock. On paye 20 euros en plus.
Oui,
Parce que si on fait une comparaison avec les Grands Prix de France moto vitesse et puis le Grand Prix de France motocross, je trouve que c'est quand même un peu plus cool le motocross que la vitesse, quand même.
Parce qu'en vitesse, je pense pas qu'on
peut
rentrer.
On peut pas aller dans le paddock. Voilà.
Mais enfin, quand même, c'est un peu c'est un Italien qui gère le motocross, le championnat du monde. Et puis c'est du business. Hein.
On a bien compris. Hein.
Parce que payer 20 francs pour.
20 euros. Oui. 20 euros l'entrée du paddock.
Ouais.
Enfin bon, on peut quand même aller de. Parce qu'on peut acheter aussi le programme. Parce que là, il n'est pas gratuit.
Oui, hein. Mais...
Et on peut faire signer les autographes avec la photo. Dans le programme, il y a la photo des pilotes et on fait signer à côté.
Mais
c'est payant aussi. Hein. Donc ça fait 40 euros. Parce que t'achètes le programme 20 euros et 20 euros l'entrée du paddock. En plus de ton entrée sur le circuit. Hein.
Non. Écoute, t'as vu le prix de vente du programme ? 3 pistons.
Ouais. Ah, c'est des 3 pistons.
Voilà.
D'accord.
Alors, je sais pas ce que c'est.
Oui, calculé Arnais. Bon, le Arnais, c'est en Mayenne. On revient un petit peu sur. Pour donner envie aux auditeurs d'aller l'année prochaine voir ce Grand Prix de France. Parce que je sais pas si ça va se passer encore à Arnais. Hein.
Parce que Arnais, il y a un historique assez grand de championnat du monde de Grand Prix de France 125, 250, du sidecar cross aussi, et de deux fois du motocross des nations. Bon, le motocross des nations, c'est le top,
l'élite.
Et peut-être en 2018, le motocross des nations va revenir à Arnais. Donc il faut pas rater.
Ouais.
Il faut pas rater parce que, comme tu disais, la piste elle est visible à 95%. Il y a le public est massé devant cette piste. Elle voit toute cette piste. Et toi, moi, j'ai fait plusieurs grands prix. J'ai jamais vu un public aussi mordu, parce que tu as bien vu.
Ça m'a impressionné. Ils sont chauds, mais alors, incroyable. Hein.
Alors,
ils viennent avec des casques de Gaulois, des drapeaux, des drapeaux bretons.
Des pétards fumés.
Des pétards, des fumigènes. Enfin, tout ce que tu veux.
Est-ce qu'il y avait des tronçonneuses ?
Tronçonneuses
aussi.
Alors, tronçonneuses.
Ouais. Sans la chaîne.
Sans la chaîne, naturellement. Pas non plus. Tronçonneuses. J'ai jamais vu un public aussi fanatique que là. Hein.
Et t'as vu, on fait la hola.
Ah oui.
Et plus la hola.
Ah bah, j'ai pas vu la hola, c'est le dimanche, voilà.
Ah ouais. Et après, on fait, tu sais, le claque des Islandais, là. Je sais plus comment ça s'appelle.
Le clapping.
Ah, voilà. Peut-être, oui.
Voilà.
Alors, c'est quand t'as 30 000 personnes, qui font ça, bon, ça
reste. C'est impressionnant.
Ah, c'est très impressionnant. Et on revient un petit peu sur ce circuit, c'est une cuvette, hein, donc une espèce de cuvette. Et alors le côté, il y a un côté donc réservé, on l'avait dit, hein, aux spectateurs. Le côté c'est le circuit, on le voit pratiquement aller à 95%. Et puis la piste, en fait, le départ est donné d'en bas, hein,
d'accord,
du bas de la cuvette. Ils doivent donc il y a une piste qui monte jusqu'en haut. Hein,
ouais.
Et alors là, il faut aussi expliquer aux gens, Guy, parce que donc ils longent, ils sont sur le haut de la de la cuvette, hein. Et à un moment, il faut redescendre. Et alors là, ouais, même toi, en tant que, en fait, ça fait piste noire.
Toi,
pour ceux qui font du ski, voilà, ça fait une piste noire. C'est-à-dire que quand on est à 5-6 mètres de, au moment où il faut descendre, on voit rien. On voit pas le. Et eux, avec en moto, ils arrivent, mais ils se jettent littéralement. Là, alors on se demande, mais c'est pas possible quand même. Si jamais il y a un gars qui s'est juste ramassé juste à côté, là, dans la descente, il le voit pas. Hein. C'est pas possible.
Hein. L'importance des commissaires, ce genre de piste.
Oui, oui, alors, bien surveiller, drapeau jaune et tout ça.
Hein. Drapeau vert, drapeau jaune, enfin, ouais, etc. Ouais. Bon, alors, je disais que Livia, elle avait terminé première en première manche. Et le dimanche matin, à 8h30, deuxième manche du championnat de féminin, étant donné que le programme était chargé, comme je disais, avec le championnat européen, les qualifs, etc. Et là, elle fait seconde d'une néo-zélandaise, Contene Duncan. Et Contene Duncan, elle avait terminé dernière, 39e. Elle a fait que deux tours dans la première manche. Et de ce fait, Livia a remonté au championnat. Elle est à un point de l'italienne que tu vas me rappeler, Clara Fontanesi.
Fontanesi. Alors, il y a championnat du monde, hein. Ça, c'est championnat du monde. Dans le championnat du monde, il n'y a que cinq grands prix.
Cinq grands
prix.
Pour
les féminines.
Oui. Et il reste trois grands prix en Tchécoslovaquie, en Hollande et en France, parce que les grands prix reviennent en septembre à Villard-de-Lans, c'est dans le Doubs, ah ouais, je crois.
Alors ça, c'est le Grand Prix de France. Hein.
Grand Prix de France, oui.
Mais le championnat de France, je veux dire. Le championnat
championnat du monde. Championnat du monde. Donc, on a eu l'occasion de faire une interview de Livia, n'est-ce pas?
Oui, parce que, tu sais, l'italienne, elle est jolie, mais Livia Lancelot...
aussi, hein.
Elle est mignonne aussi.
Oui, oui. Et puis surtout qu'elle nous a reconnus, hein.
bravo.
Elle nous a appelé sur la porte.
Ouais. Elle est sympa quand même.
Allez, bon. Qu'est-ce qu'on fait là, Guy?
Ben, on va passer l'interview qui dure pas très longtemps.
Non, deux minutes, je crois, deux minutes et demie.
Alors, Livia, voilà, tu vises le titre mondial cette année.
Oui.
Et victoire en France pour cette première manche, ça a été difficile quand même ou de la remonter?
Oui, ça a été une manche difficile parce que j'ai fait un très très mauvais départ, donc forcément c'est toujours un petit peu compliqué avec un mauvais départ, surtout que le niveau est vraiment serré. Donc manche difficile, j'ai pas super bien roulé, je suis pas très contente de moi. Maintenant je gagne la manche et je fais une bonne opération au championnat, même si c'est pas ça que je regarde aujourd'hui. En tout cas, c'est vrai que de gagner en France, c'est toujours une bonne chose.
Oui, parce que les supporters sont là aussi.
Ah oui, clairement, les supporters ont été là avec moi du début à la fin sur cette manche. Ils sont au stand aussi et clairement, je leur dois une partie de cette victoire parce qu'ils ont vraiment été là derrière moi et ça m'a poussé pour aller chercher les filles devant. Ouais.
J'ai vu que quand tu es parti sur la grille de départ, tu t'es mis au milieu.
Oui.
C'est ton habitude ou il y a souvent...
Non, c'était un choix et c'est en aucun cas ce choix-là qui fait que je pars mal puisque Van de Ven était juste à côté de moi et c'est elle qui fait le all shot. Donc c'est juste une très très mauvaise sortie de grille et ça j'en suis 100% responsable. Il n'y a pas la moto, il n'y a pas le choix de la grille, il n'y a pas tout ça, c'est vraiment moi qui suis juste pas parti. Et donc voilà, on va travailler.
Un petit mot sur, je sais pas si ça fait polémique, tu sais, sur les grilles de départ, maintenant il y a un grillage.
Derrière la grille. Ouais.
Est-ce que tu es pour ou tu es contre
Non, moi je suis pour. C'est pas. C'est nouveau, c'est différent, il faut s'habituer, c'est évident. Maintenant, ça apporte énormément de points positifs, je pense. C'est vrai qu'on n'a plus besoin de venir trop trop longtemps avant le départ. On peut arriver juste au dernier moment, on a le temps de faire un bon échauffement. Selon moi, c'est une bonne chose ce qu'ils ont fait. Maintenant, voilà, forcément, il faut le temps qu'on s'adapte, ça enlève une partie de toute cette période où on préparait nos traces pendant des heures pour avoir la trace parfaite. Au final, là, on est tous à la même enseigne. Mais bon, voilà, ça change pas grand-chose. Celle qui partait devant l'année dernière part devant cette année. Ouais, et moi qui partais mal l'année dernière, je pars toujours mal cette année. Donc, au final, on est toujours pareil.
Alors, pour demain, quel pronostic?
Pour moi, vous voulez dire ou... ah bah, l'objectif, c'est clairement de gagner la manche. Hein. Je veux dire, faut que j'aille chercher une deuxième victoire ici. Et voilà, gagner le Grand Prix, ce sera une excellente chose.
Il reste combien? Deux Grands Prix.
Il restera trois Grands Prix
après celui-là. Trois Grands Prix. dont le Grand Prix de France aussi
Oui, à Villars.
À Villars, c'est, ouais. C'est en septembre, ça.
Tout à fait.
Et sinon, au niveau mécanique, ça va pas.
Oui, on a eu quelques soucis en Indonésie. On a eu pas mal de petits problèmes en Indonésie. On a eu un léger souci technique aussi en Italie en première manche. Donc voilà, on essaye de résoudre un peu tout ça. C'est un sport mécanique, on sait que ça arrive. Ça peut pas être toujours bien. Donc fait avec.
Mais écoute, Livia, je te souhaite une bonne chance et puis on se voit à Plouvion.
Ogi, retour sur le...
Ça, c'est Philippe qui passe.
Ah, avec un IT250.
Voilà.
IT250, d'accord. Bon, très bien. Tu sais que c'est interdit de faire la moto dans les studios ici. Voilà, on revient sur le Grand Prix de France de motocross qui s'est déroulé à Ernée. Ernée, bah, c'est en Mayenne. C'est à combien? C'est 40 km de Laval. Et de Lille, il y a 460 km.
Ouais, donc, 500, ça... quoi.
Hein, comment?
Si on se trompe pas, 500.
Voilà, si on se trompe pas, 500. Mais pourquoi faut-tu qu'on se trompe, d'abord? Voilà, donc ça fait la super balade. L'année prochaine, moi, je vous... Même si vous n'êtes pas un fondu de motocross, allez faire une balade là-bas. Ça vaut le coup, parce qu'en plus, il y a une super ambiance. Et c'est vrai, je répète, il y a une ambiance, j'ai été surpris par les spectateurs.
Bien, je vais te donner là le classement du championnat du monde féminin d'abord. Enfin, les trois premières, c'était Chiara Fontanesi avec 115 points. C'est une Italienne sur Yamaha. Alors, Livia Lancelot Kawasaki, 114. Et troisième, Courtney Duncan, c'est une Néo-Zélandaise avec 108 points. Et il y a une nordiste qui est septième, c'est Amandine Verstappen, qui vient de Condé-sur-Escaut, qui est septième avec 81 points. Si vous voulez voir Olivia Rendez-vous dimanche, aujourd'hui ou dimanche, je sais pas comment on peut dire.
Alors on est mercredi.
Donc tu dis aujourd'hui parce que si les gens écoutent,
donc ce sera dimanche prochain. Voilà.
Voilà. Donc c'est avec Plomion, c'est un championnat de France. Championnat de France féminin avec féminine bien sûr. Et Livia Lancelot, elle a gagné toutes ses manches et les trois épreuves. Elle a 200 points devant Justine Charroux qui est sur Yamaha, 157 points. Mais il y a toujours deux nordistes. Je disais sixième, c'était Amandine Vestapen qui vient de Condé-sur-Escaut, membre du club de Condé-sur-Escaut. Et de Anaïs Novakovski, qui est aussi de Condé-sur-Escaut. On va revenir sur le Grand Prix dernier avec le MX 2. Est-ce que tu sais ce que c'est, le MX 2 ?
Toujours.
Hein, parce qu'avant, il y avait le MX 3 qui a disparu à cause de toi, d'ailleurs, parce que tu
comprenais Philippe, pas. MX 2, c'est bien les anciennes catégories.
Alors là, je ne suis pas expert. Jean, tu peux m'aider ?
Jean, alors, ancienne catégorie quoi ?
Et de motocross, MX2 ?
125 ou 250 ?
250.
Monsieur...
250, enfin, supérieur
monsieur
à 250,
le président, va falloir...
monsieur le président, tu sais qu'en enduro aussi, il y a des catégories, enduro 1, 2 et 3. Hein.
Ouais, tout affirmatif. Oui, mais pas MX1, MX2.
Non, mais... C'est pour les cylindrés, hein, tout à pareil. Fait.
Moi, ce que je sais, c'est que les gros cylindrés en cross, ça s'appelle comme Grand Prix de vitesse, c'est GP.
Hein, oui, voilà. Alors, je reviens sur les MX2, c'est le Grand Prix, c'est la première manche. Et c'est à Lituania, Paul Jonas, c'est bien la première fois qu'un pilote de ce nouveau pays d'ailleurs, qui mène le championnat. Dans cette première manche, il y avait Benoît Paturel qui quand même termine troisième de cette manche. Deuxième manche, 2 heures après, et c'est Benoît Paturel qui gagne cette manche devant la foule en liesse. Hein. Je te raconte pas le public comment il pouvait crier.
Alors explique un petit peu comment ça marche au niveau du classement. Donc on additionne les points.
Ben, c'est-à-dire que
sur les deux manches.
Oui, le premier de la première manche a 25 points. Et c'est les 20 premiers qui marquent des points, tu vois, 25, 22, 20, jusqu'à 1 point. Tu vois. Et deuxième manche, pareil. Et ensuite, on cumule les points. Et puis, ça se rajoute au classement de la journée. Alors, le podium, c'était Paul Jonas à Ernée, Benoît Paturel, second. Et Jérémy Seyer, c'est un Suisse sur Suzuki. Au mondial, c'est Paul Jonas qui est en tête avec 372 points, devant le Suisse Seyer, 330, et un Danois, Thomas Olsen, 291. Benoît Paturel, 5e. Et ce qu'il faut bien rajouter, c'est que la seule Marseillaise qui a été jouée, c'était pour les filles. Parce que, les Français n'ont pas... Enfin, ils ont fini deuxième ou troisième.
Ils n'ont pas brillé vraiment, à Ernée. Hein.
Enfin, pas brillé, il faut...
Non, mais ils n'ont pas fini sur la première manche. Comment ?
Guy Paturel fait quand même de bonnes manches.
Oui, de bonnes manches. Ouais. Hein, donc, il fait deuxième au général, quoi. Alors, on revient sur le MX GP. Alors, c'est la crème du championnat.
Alors, moi, j'ai entendu dire que le commentateur, il était un petit peu franchouillard, quand même, là.
Ah ouais, non, mais c'est Francis.
Francis Magnanou, hein. Ouais. Franchouillard, il n'a pas arrêté de parler comment il s'appelle, le pilote favori, un peu comme notre Zarco en vitesse.
Keroli ?
Non, l'autre, en MotoGP. En GP, cross.
Et en Paulin, De Salles.
Non, ça doit être un autre encore. Bon, bref, vas-y, je te dirai.
Fèvre. Ah voilà,
Fèvre.
Romain Fèvre.
C'est lui le...
Ouais, alors Romain Fèvre, oui.
Le leader.
Il y a des champions du monde il y a 2 ans. Et bon, il y a quelques difficultés à revenir dans les meilleurs. Hein. Il était mal parti. En première manche, Fèvre fait 7e. Alors que c'est un Allemand, Nagel Max Nagel sur Husqvarna, sur une machine bien européenne, qui le remporte devant Keroli Antonio. Et il ne faut pas oublier aussi que Tim Geiser, qui était en tête du championnat, qui était le champion sortant, s'est blessé en Lettonie il y a à peu près 3 semaines. il a fait les manches qualificatives et l'entraînement, mais moi je l'ai vu, il s'est arrêté parce qu'il était blessé à l'épaule, et donc il est reparti en Slovénie se remettre d'aplomb. Alors qu'il va louper 3 Grands Prix. Parce que le prochain Grand Prix, c'est en Russie. Hein, c'est aujourd'hui. Voilà.
Ça me revient.
Alors, pas de Marseillaise en MotoGP, mais la Brabantienne. Et c'est quel pays, la Brabantienne, mon cher
J'en sais rien, mais de moi, Philippe aussi, peut-être. Bah, il va nous dire, Philippe.
La quoi?
La Brabantienne.
Ça ne serait pas une fois la Belgique?
Eh voilà, merci Jean.
Bravo Jean. Philippe, quelle culture, quelle culture.
Donc, et aussi, il faut quand même souligner la bonne performance de Gauthier Paulin. Bon, s'il était sixième en première manche, il y fait quand même deuxième en seconde manche, et seulement à 2,5 secondes de Dessal Clément, donc il pouvait gagner, parce que je pense qu'il y avait encore 2 tours, il pouvait l'accrocher. Il était habillé tout en blanc, donc tout le monde pouvait le voir. Donc, le podium de RD, c'était Clément Dessal, belge, Kawasaki. Antonio Cairoli, qui prend de l'avance au championnat du monde, c'est un Italien sur KTM, et Gauthier Paulin, qui termine 3e. Et au provisoire du mondial, Cairoli, il y a 347 points, et notre Français a 297 points. Il est second, donc bien placé. Mais il est quand même attaqué par le Belge Clément Dessal avec 289. Et Tim Geiser, qui était en tête du championnat, il va descendre. Hein, il est quatrième, là. S'il part pas... Même le Grand Prix de Russie, il ne sera pas au départ, donc il va avoir quand même loupé 4 Grands Prix. Donc, chaque Grand Prix, c'est 50 points. Hein, donc, ça sera un peu difficile de remonter.
Ça va être difficile pour lui.
Et Cairoli, je sais pas, il y a 38 ans ou 36 ans, et ça va être... parce qu'il veut avoir 10 titres mondiaux. Enfin, là, il y en a 8. Enfin, l'âge est là, mais...
beaucoup d'expérience et pour l'avoir vu sur certains Grands Prix, est impressionnant.
Surtout vers la fin des manches, je sais pas, il trouve de l'énergie. Il mange des pâtes, d'ailleurs.
Ah, c'est pour ça, voilà.
And no black and no white seems to be that way to me. From the brightest day till the darkest night of gray and all its glory is what my world is made. People say I'm called all blind, but that's all right with me, 'cause a rainbow finds me a traveling light to wherever that may be. And no black, and they have no white, through the eyes of this old dog, from the prettiest girl till the biggest bone, love can be as easy as falling off a log. People say I'm cold or blind, but that's alright with me, 'cause a rainbow finds me a traveling light to wherever that may be. Time.
Guy, je te propose de changer de discipline, je te propose de partir là-bas sur une petite île qui est coincée dans la mer d'Irlande, entre l'Écosse et le nord de l'Irlande, l'île de Man. Ça t'intéresse ?
Ah oui, oui.
Eh bien écoute, on a...
Parce que les pilotes font comme le motocross, hein, ils se jettent dans les tables.
Ah, dans les tables ? Ah oui, bon, comme ça aussi.
Pas dans les tables.
Au téléphone, nous avons Aurélien Lehouc, qui est un motard ici du nord et qui est parti, qui m'a dit qu'il partait là-bas, donc ça m'intéresse de connaître un petit peu la météo d'abord. Aurélien, tu nous entends ?
Oui, oui, je vous entends.
Bonjour, ouais. Aurélien. Alors, il paraît que cette année, il pleut beaucoup là-bas à Lindemann.
Ouais, alors là, il est clair qu'il pleut beaucoup. On a eu beaucoup de vent, on a dû même déménager notre tente tellement elle prenait l'eau de partout.
C'est pas vrai.
Mais si, c'est un peu folklorique, mais c'est rigolo, on se marre bien ici, on se marre bien.
Vous avez, donc vous êtes dans un camping alors, ou vous avez de la place parce que, bon, il faut mieux trouver un petit gîte, hein, quand même, à Lindemann.
Ouais, ça serait mieux, ouais. Mais là, nous, on est parti un peu à l'aventure. On est parti dans un camping à la ferme avec des vaches, tout ça. C'est vachement marrant.
Un camping à la ferme. Ben, tiens.
Ouais, c'est ça. Juste à côté de Ramsey. Très, très bien. On a un beau spot où les mecs, ils arrivent comme des balles.
Ramsey, c'est un beau virage. C'est un virage déjà qui est intéressant à regarder un peu les pilotes passer. Hein.
C'est ça, ouais. Un beau virage à 90, les mecs déboulent à fond de 5, au moins à fond de 5, et quand on les voit passer, c'est impressionnant, quoi. Les mecs, ils jettent tout d'un coup, et ils repartent comme des balles, quoi, pour aller en direction de la montagne, là. Et c'est vraiment sympa. Alors, ouais.
Donc, tu sais que ce circuit fait 60 km, hein.
60 km, ouais, c'est
hein,
ça. C'est
et
ça.
Tu vois passer les pilotes deux fois ou trois fois, hein, maximum.
On a la chance de l'avoir en superbike, qui font 6 tours, donc
6 tours quand même.
Ravitaillement. Avec deux ravitaillements. En super sport, ils arrivent à faire 4 tours, donc on les voit passer quand même pas trop... On les voit souvent passer quand même.
Je ne sais pas si tu es intéressé un peu aux vitesses de pointe. Alors la moyenne, je crois, c'est 230 km/h ou 250 km/h. Je ne sais pas si tu es intéressé à ça.
Il me semble que la moyenne, elle est à peu près 210-215 km/h.
Donc ça fait des pointes à 280. Voilà.
Wow.
300 dans la montagne.
Ouais. Les milles, elles vont très très vite, ouais. Ça doit faire peur.
C'est un baptême pour toi là, Aurélien, de l'île de Man.
C'est ma première fois. Ouais.
C'est la première fois, ça s'arrose alors.
Ouais, ça s'arrose. Ouais.
C'est pour ça que t'as l'apéro défense.
C'est pour ça qu'il pleut.
Exactement.
Ah, ça s'arrose, d'accord, la première fois.
Et Aurélien, il y a eu déjà des accidents lorsque j'ai vu. Il y a un pilote anglais qui s'est crashé, mais enfin il est blessé à la figure, mais il n'y a pas eu de décès encore, parce que chaque année il y a des morts, hein, à l'île de Man.
Ouais, malheureusement, il y a quelques gros accidents. Bon, là aujourd'hui on a voulu prendre la route de la montagne et malheureusement on a été bloqué parce qu'apparemment un touriste a eu un accident et malheureusement on aurait perdu la vie. Mais sinon, on a Guy Martin aussi. Guy Martin, un pilote assez populaire.
Ah oui, c'est une gueule de cinéma, Guy Martin.
Ouais. C'est ça. Hein? Et il s'est cassé la gueule en première manche Superbike.
Ah ouais.
Donc il a un poignet cassé. Donc du coup, la participation est annulée pour le reste de la semaine. Quoi.
Ben, on pensait qu'il avait raccroché le cuir là justement surtout pour cette course là hein, parce que il s'en est pris une il y a 2 ans là et ça a été filmé et crois-moi que il s'en est bien sorti là.
Et en plus
et
en plus il devait rouler en moto électrique aussi.
Ah peut-être là je sais pas vous dire mais peut-être.
Alors pour une première fois qu'est-ce qui te paraît vraiment incroyable sur cette île?
Les chats sans queue.
Ah oui, alors les
chats. Ouais,
Guy, regarde ça.
Moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est l'état des routes. Voir que les mecs, ils arrivent à taper des 300 à l'heure sur des routes aussi déglinguées, ça m'impressionne. Parce que autant, on fait rouler vite en championnat de Belgique, que j'ai pu faire, les routes, c'était des billards. Mais là, c'est pas
c'est
ça
pire.
Du tout. Quoi. Donc,
c'est pire.
Ah, c'est un peu de dingue. C'est un peu de dingue.
D'accord. C'est, donc, là. Oui, vas-y.
Vas-y, je vous écoute.
Donc, je crois que c'est une course sur deux, hein, tous les deux jours. Hein.
Normalement, oui, mais comme il y a eu pas mal de pépins avec la météo, ils ont enchaîné au maximum. Donc ça, hier, on a eu des courses, aujourd'hui, on a eu des courses.
Ah d'accord, donc ils ont bouleversé le programme.
Oui, ils ont bouleversé le programme pour attraper le temps perdu à cause de la météo.
Alors j'ai vu là que le résultat en super sport, là, et enfin les deux courses vraiment majeures, hein, c'est le super sport et le super bac.
Ouais.
Donc Yann Hutchinson et Michael Dunlop, les deux favoris de l'édition finalement, hein, 2017, qui ont fait les meilleurs temps.
Ouais, bah il y en a en super break une, c'est Yann Hutchinson qui a gagné la course. Là cet après-midi en super sport c'est Michael Dunlop, donc on s'était dit tiens un partout, et cet après-midi en super stock c'est Yann Hutchinson qui a repris la tête.
D'accord.
Donc et on a eu aussi la course des twins légers là, donc des petits 650, et c'était apparemment d'après ce que j'ai compris c'est la victoire de Michael Rutter, un vieux briscard de 46 ans.
Ah oui, c'est des vieux, hein.
Ah ouais, c'est pas du tout neuf, ouais. Et franchement, c'est impressionnant de faire ça, d'avoir encore des performances à cet âge-là, quoi.
Incroyable, ça. Ouais.
Incroyable. Ouais. Mais il n'y a que là-bas qu'on peut voir des trucs pareils. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant.
Par contre, est-ce que tu as vu les courses de sidecar?
Alors, on en a vu une. Alors, le vainqueur, je ne sais pas vous dire, mais nous, on était à Ballo Bridge.
C'est Tim Reeve.
Pendant la course de sidecar, comment?
Tim Reeve.
Le Tim Greaves.
Tim Reeve.
Et il ne faut pas oublier aussi qu'il y a une fille, une Française, qui fait 13e, enfin je ne me rappelle plus de son nom.
Je me souviens plus trop, mais on a essayé d'aller la trouver dans le paddock, malheureusement ils n'étaient pas là. Mais effectivement, l'équipage féminin a fini 13e, ouais.
13e,
donc, on voulait aller les voir pour les féliciter, mais malheureusement on n'a pas pu les trouver. Donc,
il faut aller bien chercher.
Ah ouais, c'est que partie remise, on ira les trouver dans la semaine.
Bon, ça c'est la course, et là, dis-nous un peu ce que tu fais, là. Ce fameux rendez-vous des Français, c'est quoi, ça, pour les auditeurs qui ne connaissent pas? Allez, Le Mans. On a justement un invité qui ne connaît pas ce fameux rendez-vous des Français au Tourist Trophy, Le Mans. Et donc, il voudrait bien en savoir un peu plus, là.
Alors, le rendez-vous des Français, ça se situe un peu au bord de mer de Douglas, au niveau de Douglas, juste à côté du puits. Et là, je regarde un petit peu, il doit y avoir à peu près 200 Français qui sont là en train de boire l'apéro tous ensemble. C'est vachement convivial, c'est vachement sympa.
Attention de ne pas tomber dans le puits, hein, Aurélien.
Ouais. Pour l'instant, on n'est pas encore à ce stade-là, on verra plus tard.
Alors méfie-toi, parce que moi je suis allé une fois et j'ai goûté tout, et c'est pas bon de goûter tout à la fin.
Les Anglais, ils sont particuliers. Au niveau culinaire, c'est particulier.
Mais je veux dire, j'ai goûté au niveau des boissons, parce que chacun ramène sa petite spécialité locale. Hein. Le Breton, lui, va ramener du chouchen, le Marseillais, du pastis.
Ouais. Là, c'est vrai que là, il y a un peu de tout. Quand je regarde le puits, là, il y a un peu de tout.
Et le nordiste, il a ramené quoi?
Eh ben nous, on a ramené de la bière. Hein. La bière de chez nous.
Un peu de pub pour une bière ou...
On a ramené un peu d'Angelus, un peu de...
Ah bah ouais, l'Angelus,
un peu de Moulin d'Ascq.
La Moulin d'Ascq, ah, oui.
Et de la Corbeau.
La Corbeau, on l'a pas pris, mais non. On aurait pu la ramener.
Donc demain, le programme pour demain?
Eh ben écoute, on va regarder sur internet cet après-midi, enfin ce soir, parce que là, je ne serai pas vous dire. J'espère qu'il y aura encore quelques cours, j'espère que la météo va se maintenir. Là, il pleut un petit peu, mais j'espère que ça va continuer comme aujourd'hui, quoi.
Quand il n'y a pas de course, vous faites quoi?
Ah bah du coup, on se promène, on visite, il y a plein de musées à voir, il y a des musées de motos anciennes, des musées de motos de course, bon, vraiment, il y a pas mal de trucs, c'est vraiment axé, toute l'île vit au rythme du Titi, c'est vraiment sympa à voir.
On peut dire que c'est vraiment le Lourdes, hein, de la moto, hein.
Ah mais c'est la Mecque,
Ça dépend quel côté on se place. J'ai posé le dire. Bon, oui, il y a un bar à Douglas, là, où pratiquement il y a tous les portraits des grands pilotes, hein, qui ont participé à cette course. Je ne sais pas si tu connais.
Je ne le connais pas encore.
Mais tu fais tous les bars.
Voilà. Et donc, aussi, Il y a beaucoup de rendez-vous de marque aussi. Je ne sais pas si tu les as fait. Oui. Ducati qui se réunissent, les Triumphs, les Honda.
Ah ben là justement, hier on était à Port-Érin, donc au sud de l'île. On est allé voir un rassemblement MV Agusta et aussi beaucoup de toutes les motos italiennes parce qu'ils n'étaient pas trop pas fermés. Donc on a vu vraiment des belles machines, des vieilles MV Agusta de course. On a vu des Super Leggera, des Desmos Editi. Vraiment des belles motos, ouais, des belles machines.
D'accord. Et tu sais qu'au nord de l'île, hein, tu peux aller voir, il y a des phoques. Hein, y a des phoques.
Ah ben, on va y aller alors, on va y aller.
Si tu veux quitter un petit peu le monde de la moto pendant une heure pour te remettre les oreilles en place.
Ouais, ouais, voilà. Ça hurle, ouais.
Voilà. Et y a toujours autant de moutons aussi.
De moutons, bah écoute, on en a pas encore vu.
Bon,
on en a pas
bizarre.
Encore vu, ils sont bien cachés.
Ok, bon, c'est bizarre. Il y a peut-être plus de moutons maintenant. Voilà. Bon, bah écoute, on va te laisser déguster les spécialités des Français, hein.
Ok, super, merci beaucoup.
Ne tombe pas dans le puits, dans la fontaine.
Je vais essayer, je vous promets rien.
T'inquiète pas, de toute façon, il est bouché. Je suis allé voir.
Il
y a plein de bouteilles vides.
Voilà, très bien. Bien, merci Auré. Ben écoute, bonne fin de semaine, hein, parce que je sais que tu rentres lundi.
Ah, c'est ça, ouais. Bon,
j'espère que tu n'auras pas trop de pluie.
Bon, bah, écoute, la pluie, on fera avec. Hein.
Bah, de toute façon, c'est un paramètre ingérable et il faut bien accepter les choses, voilà, dans la vie.
C'est hein. ça.
Bon apéro des Français.
Merci beaucoup. Et puis, bonne soirée à vous. Enfin, bonne journée à vous et à bientôt.
Et à bientôt.
Ciao, ciao.
Yeah.
Bourgui, retour au tout-terrain après cette petite pause Hildeman. Toujours intéressant de savoir un peu ce qui se passe là-bas aujourd'hui,
apéro.
Parce que c'est la pause apéro, oui. Voilà. Et avec Philippe Waterloo, hein, le président de la commission d'Euro de la Ligue des Flandres.
Des Flandres, oui. Alors il est dans nos studios parce qu'on était étonné qu'il y avait quand même 6 épreuves du championnat des Flandres. Alors où se déroulent ces épreuves? Parce que le Nord, il est quand même assez peuplé. Ça se déroule où, Philippe?
Alors, exactement. Donc en 2017, on a 6 épreuves pour un championnat qui se déroule sur différentes régions. Malheureusement, pas dans le Nord-Pas-de-Calais. On n'a aucune épreuve sur le Nord-Pas-de-Calais. Mais on a des épreuves dans les Ardennes, en Champagne, en Normandie et dans l'Aisne.
D'accord. Voilà.
Donc ça, c'est réparti du mois d'avril à fin septembre. Hein. Et voilà, il y en a des épreuves, une ou deux épreuves chaque mois, voilà, qui sont réparties mai, juin, juillet, août, il n'y en a pas, bien sûr. Et après, 2 épreuves sur septembre.
D'accord. Et est-ce qu'il y a beaucoup de pilotes nordistes qui font ce championnat?
On a des pilotes nordistes, hein, puisqu'il faut savoir qu'en enduro, un enduro, hein, c'est une course de régularité.
Hein, oui, il ne faut pas confondre avec l'enduro du Touquet, parce que
exactement.
Certains...
Il faut préciser, là, je pense, voilà. Philippe. Donc, parce que tu sais, les auditeurs qui ne sont pas trop au parfum, enduro et enduro pâle...
C'est exactement...
Dans l'enduro, là, c'est toi, tu parles de terre, hein, c'est de faire les 200 ou 300 km, c'est ça?
C'est ça, exactement. C'est deux boucles. En général, c'est deux boucles ou 3 boucles, suivant si on est en Ligue 1 ou en Ligue 2. D'accord. Et la grande différence, oui, l'enduro pâle, l'enduro Youtouquet, hein,
c'est dans le sable.
C'est une course qui peut ressembler à une endurance, hein, une endurance dans le sable, sur un circuit qui fait 7, 8, 10 km. Là, en enduro sur terre, hein, le vrai enduro, ce qui est plutôt une épreuve de régularité, hein, ça se passe sur des chemins de terre, des sous-bois, des vallées, des pâtures, et ainsi de suite. Et on a une boucle à faire, donc une fois, on l'a fait 2 fois si on est en Ligue 2, on l'a fait 3 fois si on est en Ligue 1. Et durant ces boucles, il y a des épreuves spéciales, où là, ces épreuves, c'est sur un dévers, sur un sous-bois, où là, c'est chronométré. Donc là, c'est vraiment, on part un par un, un peu comme l'Hildeman, et on part un par un, et c'est chronométré, et le classement se fait par rapport au chrono de chaque spécial qui est accumulé.
Alors,
oui. Voilà, si on veut faire une comparaison, en fait, c'est comme le rallye automobile, quoi, hein, retranscrit.
Oui, voilà, c'est ça. On a tous vu des images de rallye automobile.
Voilà. C'est plus parlant, on va dire, pour les auditeurs.
Expliquer, voilà.
Mais voilà, alors, l'enduro du Touquet reste aussi une belle épreuve. Hein, l'enduro pas est une épreuve sympa, mais c'est vrai.
Ah, c'est pas une comparaison.
Oui, voilà, oui,
c'est mais... simplement pour expliquer.
Mais c'est vrai que pour le grand public, voilà.
Enduro, voilà.
Tout à fait. Moi, je me souviens très bien que ça fait des années que je fais de l'enduro. Et quand j'étais jeune, je faisais de l'enduro sur terre, hein, l'enduro classique de régularité, et on me disait toujours, ceux qui connaissaient pas le monde de la moto, ah tu fais l'enduro du Touquet, alors tu fais l'enduro du Touquet. Je disais non c'est pas ça,
voilà.
Ce qui m'a énervé, et en 2000 je me suis dit allez, je vais faire l'enduro du Touquet, comme ça aussi je pourrais dire que j'ai fait.
Et ce qui est pas du tout la même course.
Mais c'est complémentaire. Mais c'est quand même complémentaire parce que ça permet de s'entraîner durant l'hiver, hein, ou sur les chemins, les sous-bois, c'est des fois un peu plus compliqué. Et pour nous, nordistes, on a un terrain de jeu qui est quand même sympa aussi à ce niveau-là.
Alors justement, sur la région aussi, c'est pas terrible aussi quand même. Il y a sûrement des régions qui se prêtent plus à cette discipline qu'ici dans le Nord.
Dans le Nord, Pas-de-Calais, on a une densité de population qui est quand même assez forte. Hein. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup de mal à organiser un enduro.
Il y avait Ebb.
Il y avait Ebb dans les années 88, 90. J'ai pas connu.
Mais qui ont été annulés aussi.
Contre, il y avait un projet l'année dernière pour refaire une course du côté de Maubeuge, limite frontière. D'accord. Belge, voilà, et qui voulait venir avec la fédération belge aussi. Bon, et malheureusement, au niveau de l'organisation, ça s'est pas très, très bien déroulé. Il n'y a pas eu les accords au niveau du préfet. Et bon, donc ça a été annulé et remplacé. Et nous, on s'est déplacé et remplacé par une épreuve en Normandie.
Je ne sais pas, quand tu parles de sous-bois, il ne faut pas déranger le...
La faune et la flore.
La faune, la flore. Et aussi ceux qui regardent la faune et la flore.
Si je peux me permettre, par rapport à ça, il y a l'enduro de Rocroi qui a eu lieu donc, la semaine dernière. Et donc, ils travaillent en main dans la main avec l'ONF et ils ont un parcours mais qui est somptueux quoi.
Qui est magnifique. Hein, qui est...
Avec toutes les autorisations qui vont bien et comme quoi bah, y a moyen de.
C'est faisable.
Voilà, c'est faisable. Ouais.
Voilà. Avec de la bonne avec de la volonté, du courage, voilà, c'est faisable. Après, il faut quand même qu'on ait les autorisations au niveau préfecture et ainsi de suite. Voilà. Et bon, à première vue, dans le Nord, ça a l'air un peu compliqué, mais c'est vrai qu'on a. Nous-mêmes, on ne s'est jamais repenché un peu sur la question de se dire, allez, on va peut-être essayer de faire quelque chose. C'est un projet qu'il faudrait qu'on ait avec les différents clubs de la région, hein. Le RTT, Azimut Enduro, Flandre de Moto Verte. Voilà, faudrait, si on pouvait s'unir pardon, et essayer d'organiser, ça pourrait...
Est-ce que ça ramène beaucoup de spectateurs, non?
Ça
n'a rien à voir avec l'enduropale.
C'est un spectacle gratuit. Hein.
Non, non. C'est un spectacle, oui, comme dit Jean, tu as tout à fait raison, c'est un spectacle qui est gratuit. Les accès aux spéciales sont gratuites. Il y a du spectacle en spécial. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué d'aller faut aller chercher en liaison, ce qu'on appelle en liaison. Hein, donc, ce qu'aller chercher les passages difficiles. Il y a des passages spectaculaires, mais le spectateur doit marcher un petit peu, faire 500 mètres, 800 mètres, peut-être 1 km pour aller trouver l'endroit difficile en liaison. Mais il y a aussi du beau spectacle à voir
en trial,
en liaison.
Alors, en trial.
Un peu comme en trial.
On marche beaucoup, enfin, le spectateur marche beaucoup pour passer d'une zone à une autre.
Tout à fait, tout à fait. Ouais, ouais. Tout à fait.
Tu parlais d'organisation dans le Nord. On s'est rencontrés là, tout près de Fockenberg. Est-ce que Racer Factory qui est organisé, est-ce que là, ça serait possible de faire une épreuve de championnat?
La région s'y prête. La région s'y prête, ce serait très sympa. Après, il faut qu'on ait toujours pareil, qu'il faut construire le dossier, avoir les autorisations. Mais c'est vrai que la région s'y prête. Comme la région de Saint-Omer, la région de Maubeuge, tout ça, c'est des régions sympathiques qui pourraient s'y prêter. Ouais.
Et dernier point aussi, question machine, entre l'enduropal et le championnat d'enduro, parce que chez vous, la moto doit être immatriculée, le phare qui marche, le clignotant, je ne sais pas.
C'est une très bonne remarque, Guy, tout à fait. Il faut avoir une moto homologuée, assurée et le permis de conduire.
Hein. Voilà.
Donc ça c'est contrôlé aux vérifications techniques qui sont la veille de la course. Et tout ça, la machine et le pilote, entre guillemets, est contrôlé. Il faut avoir sa licence, son permis et la moto qui soit en règle avec l'assurance et ainsi de suite. Tout à fait. Et au niveau bruit surtout. Oui, au niveau bruit.
I got a raging heart.
dans le magazine Tout Terrain. Aujourd'hui, on parle enduro avec Philippe Waterloo, donc le président de la commission enduro de la Ligue des Flandres.
T'as vu, on invite quand même du gros monde, hein, oh, président.
Il n'est pas bien gros, Marc, mais
bon. Enfin, il a une belle machine, toujours. Hein.
Mais il a une belle moto, ouais.
Ouais, ouais. Alors, un petit mot, il est venu avec un membre de la... Si, il fait partie d'un club,
la commission, Jean. La commission enduro.
Ouais, d'accord.
Et puis...
Alors, Jean, lui, il fait des courses à l'ancienne, plus que le championnat, ou c'est pas le même jour ou...
Ah bah si, en même temps, il y a un peu de tout, en fait. Disons que cette année, on a travaillé avec Philippe pour monter un championnat d'enduro vintage. Donc voilà, c'est la première année, c'est un essai, on voit un petit peu comment ça se passe, et puis on tirera les enseignements, et l'année prochaine, on verra comment on peut organiser tout ça. Bon, là, on est 4-5 pilotes à rouler régulièrement sur ce championnat. On espère, bien sûr, motiver du monde et avoir un peu plus de monde l'année
prochaine. C'est la mode, ça, le vintage, hein, faire une épreuve vintage.
Mais c'est... Une fois que les gens découvrent, on y prend vite goût. Moi j'ai fait nombreuses saisons en enduro, mais en moderne. Bon, j'avais arrêté pour diverses raisons et j'ai repiqué un petit peu au jeu cette année avec des vieilles motos.
Et du roule sur quoi?
Je me régale avec ça. Avec une Sage Schneider. Sage Schneider de 50, moto qui a été fabriquée dans le nord, à Hasbrouck. Jusque dans les années 86, hein. D'ailleurs, ma moto est une des dernières sorties de l'usine.
D'accord.
Et c'est un réel plaisir de rouler avec ces machines. Je peux même avouer que je reprends plaisir à rouler à moto.
En ancienne.
En ancienne, ouais.
D'accord.
Ouais.
Et j'ai appris, mon petit doigt m'a dit que tu vas faire les 6 jours, les ISDE, à Brive-la-Gaillarde en catégorie ancienne.
Alors effectivement, c'est prévu. Donc l'année dernière, on s'est testé un petit peu à l'île d'Elbe sur une épreuve européenne. On a pris un peu goût à tout ça. Et cette année, il y a le championnat du monde, les ISDE, à Brive. Et avec une catégorie ancienne. Donc on s'est dit, on y va, on fonce. C'est pas tous les jours qu'il y a les ISDE en France. Donc on est inscrit avec une dizaine de pilotes.
C'est la compétition phare, ça. C'est le truc.
C'est
le Grand Prix d'enduro de France, ça.
Alors bon, c'est le championnat du monde par équipe, en fait.
Championnat du monde par équipe.
Ouais. Alors pour les top pilotes, hein. Maintenant, nous en ancienne, on a un programme un petit peu plus allégé quand même. Hein. Au lieu de faire 6 jours, on fait que 3 jours. Et on roule en solo, en fait. Hein. C'est pas une compétition
c'est
de
pas le
nation.
Même, c'est pas
nous.
Le même circuit que les pros, quoi.
Normalement, on reprendra aussi une partie de leur boucle. Hein.
Peut-être que les grosses difficultés seront peut-être détournées, mais...
En général, les ISDE, c'est pas non plus des parcours extrêmement exigeants. Hein. Il y a tellement de pilotes à faire passer que, bon, certes, il y a des difficultés, mais...
J'ai déjà vu des photos où il n'y avait plus beaucoup, beaucoup, et que
après, voilà,
pour passer dans les endroits, c'était, à mon avis, pas facile.
Après, effectivement, la difficulté d'un enduro, c'est souvent les conditions météo qui le décident. Hein. Si c'est le déluge, ouais.
Et j'ai vu, Jean, que tu as cassé ta tirelire pour l'engagement, parce que c'est pas gratos, hein.
Effectivement, ouais.
On s'est fait T'as vendu une moto,
On s'est fait un peu mal là-dessus. En fait, l'inscription, bon, c'est 300 balles, ça reste tout à fait correct pour ce genre d'événement. Mais on nous demande une extension de licence, alors qu'on a déjà une licence nationale, hein. On nous demande encore une extension de licence de 300 balles. Ça fait un beau budget ajouté au déplacement, hébergement, préparation, etc. etc. Ouais, mais bon, voilà.
C'est ça. Voilà.
C'est le sport mécanique.
Et IDEO, c'est pas la plus vieille. Ah non,
c'est la plus vieille.
C'est la plus vieille.
Non, parce que l'appellation, elle a été changée.
Ah oui, d'accord.
Elle a été changée. C'était
ISDT.
Et maintenant, c'est ISDE. Il y avait Steve McQueen qui avait roulé en Allemagne à Erfurt sur Triumph. cette année, qu'est-ce que je voulais dire, il y a aussi les féminines, l'équipe de France qui roule bien en championnat du monde d'enduro, enfin aux 6 jours. Souvent, ils montent sur la plus haute marche.
Oui, il y a une équipe de filles, bien sûr. Et qui sont assez performantes au niveau mondial. Oui.
J'avais rencontré il n'y a pas très longtemps Jacques Boll, le président de la fédération, et, parce que lui est membre de la FIM. Et vous vous rappelez, il y a 2 ans, la France a été déclassée pour mauvais fléchage de piste. Mais la France n'a pas réussi à avoir gain de cause. Et l'année suivante, la France ne s'est pas présentée. Ça s'est passé en Espagne, je crois.
Oui, exact. Ouais, c'est Espagne, bien ça, oui. Ouais. Mm.
Et cette année, c'est la France. Les pilotes français sont
là. Qui peut être considéré comme favori.
Oui, parce que ils sont souvent bien classés, individuels comme par équipe. Quoi, hein.
De toute façon, la France est réputée au niveau mondial, maintenant en enduro. Hein.
Ok.
From my mind, what did I see? Can I believe that what I saw that night was real and not just fantasy? Just what I saw in my old dreams, were they reflections of my warp mind staring back at me? 'Cause in my dreams, always there, the evil face that twists my mind and brings me to despair. Ah!
Alors ça, c'est pas une bécane d'enduro, ça. Non. Ou alors, je sais pas, c'est bizarre. Ils ont changé, voilà. Voilà, alors l'enduro, et puis alors le président qui imite bien les motos, tiens.
Voilà. Ah, je me suis entraîné toute la semaine. Ouais.
Philippe Boitierlo, hein, donc président de la commission enduro à la Ligue des Flandres. On revient un petit peu sur cette discipline qui est bah, finalement pas très bien connue quand même.
Qui est assez peu connue du grand public, tout à fait. Et moi, ce que j'invite vraiment tout, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de randonneurs en fait, en tout terrain, des gens qui font de la balade, de la randonnée avec des machines d'enduro. Hein. Et bah, je les invite à venir découvrir ce que c'est qu'une épreuve de ligue. Hein. C'est très accessible, c'est très sympa. Et ça permet ben, de passer et de progresser surtout aussi assez rapidement. Et puis de passer un peu à autre chose avec un petit stress, un petit plus avec le chrono et ainsi de suite. Quoi. Tout en restant dans une ambiance très conviviale, très sympa. On parlait du rendez-vous des Français là, le mercredi au TT. La veille d'un enduro, le samedi soir, ben, c'est classique qu'on fasse barbecue,
j'ai compris.
Pardon.
C'est le rendez-vous des
Nordistes. C'est le voilà, parce qu'on campe, en général, on campe sur le parcoureur. D'accord. Et voilà, et là, il y a de la convivialité, il y a de la sympathie, et il y a beaucoup de fou rire.
Alors, tu veux dire qu'on peut venir, même si on... Il faut prendre une licence, quand même. Il faut adhérer, quand même, à la ligue.
On peut prendre une licence à la journée. Hein. Oui. On peut prendre une licence à la journée qui doit coûter une soixantaine d'euros et qui permet de participer à une épreuve. Donc ça permet de découvrir, et en plus on a un classement licence à la journée, hein, Ligue 3, voilà, qui permet de découvrir l'épreuve, de découvrir ce que c'est qu'un enduro, et de donner envie de passer à l'étape.
Donc c'est pas une balade, il y a un réel classement.
Il y aura un classement, sûr. C'est une compétition quand même.
C'est une compète.
C'est une compétition, voilà. Qui reste dans bon enfant, dans la bonne humeur, mais
oui, on ne sait pas des blocs passe, non.
Voilà, pas trop, voilà.
Et surtout,
pas trop, c'est pas la coutume. Voilà. Peut-être que les tout premiers en Ligue 1 vont, voilà. Mais en général, il y a de l'entraide, il y a de la solidarité.
Ouais, et puis c'est bien cordial, parce que j'ai vu ça, tu sais, à l'enduro qui a eu lieu là près de Falkenberg. Oui. Là, tout le monde se parle et tout ça. C'est comme un peu comme en trial à l'ancienne, tu vois. Il n'y a pas de rivalité. Qu'en cross, c'est tout à fait différent. Chacun est dans son coin. Voilà, quoi.
Tout à fait. Il y a une vraie convivialité entre les pilotes, et même entre top pilotes. Hein. Que ce soit après même au niveau national, sur les épreuves du championnat de France, il y a une vraie convivialité, une vraie sympathie et un vrai respect.
Et on vient avec quelle machine ?
Alors, une machine d'enduro, une machine homologuée. Hein, une machine d'enduro, c'est pour le grand public, on va dire que c'est une machine de cross sur laquelle on a mis un éclairage. On a mis un silencieux, vraiment silencieux.
Hein, donc parce qu'on passe d'échappement. On passe dans les sous-bois. Hein,
voilà,
donc
on est contrôlé, 92 décibels grand max. Et puis une moto donc a un éclairage qui est assuré, qui a une carte grise, voilà. Mais c'est pour le grand public, on pourrait de loin croire à une moto de cross, tout à fait.
Et quel cylindre ? Il y a plusieurs catégories ou ?
Alors il y a plusieurs catégories. Il y a catégorie 120. Alors Jean, tu es peut-être plus expert pour toutes les catégories, mais
non, pas du tout.
Pas du tout. Alors il y a 120. Alors parce qu'en fait en ligue on n'y fait pas attention. En ligue, on n'y fait pas du tout attention. On parle surtout de Ligue 1, où les pilotes vont faire 3 tours. On parle de Ligue 2, où les pilotes vont faire 2 tours. Et la Ligue 3, où c'est les pilotes qui ont pris des licences à la journée.
Je suppose quand même que vous mélangez pas les 120, peut-être des 250 avec des 500.
Ah si, tout le monde part ensemble. Hein, tout le monde part ensemble. Ah, c'est, oui. Le départ se fait minute par minute. Et oui. 4 pilotes par 4 pilotes. D'accord.
Quel que soit
la cylindrée, tout est mélangé. En général, les clubs essayent d'organiser, de regrouper les ligues. Les pilotes de ligue ensemble, ce qui est sympa. Et par contre, ils partent ensemble. On doit pointer à l'heure au niveau des CH, des contrôles horaires. On doit pointer à l'heure. Si on en avance, on attend. On boit un coup, on discute avec le copain. Si on est en retard, on prend des points de pénalité. Et on doit décaler son temps. Voilà. Et après, au niveau des spéciales, là, par contre, on part tout seul. Et là, c'est gaz.
Et à la fin, vous faites un classement par cylindrée, je suppose.
Alors, il existe un classement par cylindrée, mais je vous dis, en ligue, c'est pas appliqué.
D'accord.
C'est pas appliqué parce que déjà, on n'est pas assez nombreux. Assez, ouais. Et puis, voilà. Et puis, aujourd'hui, il n'y a plus tant d'écart que ça en enduro, entre une 125, une 250, une 300. Et au niveau puissance, elles sont pas loin. Au niveau efficacité aussi. Donc, voilà. C'est plus par affinité, par plaisir.
C'est vrai, on dit une compétition, mais enfin, c'est aussi quelque part
Un enduro de ligue, ouais, un enduro de ligue, ça reste une compète parce qu'il y a un classement.
Oui, un classement. Oui.
Mais voilà, à nos niveaux, et puis à nos niveaux, voilà, ça reste. Voilà. Et puis après, en enduro, il y a aussi après ce qu'on appelle les classiques, les grandes classiques d'enduro. Il y a eu le trèfle auxérien, par exemple, qui s'est passé.
Oui, mais ça, c'est vraiment des.
La semaine dernière. Ouais, mais ça reste dans de la convivialité. Oui, parce qu'il y a des beaux. Il y a un beau plateau. Ouais. Il y a des beaux pilotes. Mais ça reste aussi hyper sympa.
Puis c'est fait dans des régions où, justement, l'enduro, c'est le pied parce que vraiment, il y a personne.
C'est la deuxième religion. C'est ça.
Je ne sais plus si est-ce qu'ils font l'allée classique, c'est fini ça, non?
La allée classique, malheureusement, c'est terminé.
C'est terminé, ouais. Tout à fait. On parlait de catégories au 6 jours, par exemple, au 6 jours. Hein, parce qu'avant, il y avait des catégories qui allaient du 50 jusqu'à 1200 cm3.
Ouh!
Il y avait au moins 8 catégories.
Très sympa, ça.
Et ta BM, elle est
pas là. Ma BM, elle est prête. Je vais pouvoir me prendre le départ avec ma BM.
Mais c'était à l'époque, tu sais, quand les Allemands de l'Est et les Tchèques et les Italiens dominaient. Parce que avec des MZ, etc. C'était...
Ou des BM, ils roulaient avec des BM aussi.
Et des BM, oui. Alors, ils étaient en classe 1200.
D'accord.
Donc, il me reste 3 minutes d'émission. Je sais pas, il faut avoir on va sur la Ligue, le site de la Ligue, comment on fait pour
Avoir des infos. Alors, le site de la Ligue qui vient d'être fait d'ailleurs, qui est très, très sympa. Donc, le site de la Ligue pour avoir toutes les infos, se rapprocher d'un club. Après, l'idéal, c'est de se rapprocher d'un club de la région. Hein. Tous les clubs sont listés sur le site de la Ligue. Et après, c'est pas hésiter à me contacter. Par exemple, ou les présidents de club, hein, pour avoir des infos et pour se faire intégrer à une équipe. Et donc le site, c'est Ligue Moto Flandre, hein, .com, Ligue des Flandres, Ligue Moto des Flandres, .com.
Pour revenir à la catégorie, maintenant il y a une catégorie vintage.
Oui, non, oui, tout à fait. Pour les Flandres, cette année, c'est de la nouveauté.
C'est la nouveauté. Hein.
On a créé une catégorie vintage, et on pense que, et on est même certain qu'il va y avoir un essor important à ce niveau-là.
Ah, moi, je voulais vous parler d'un gars qui a fait un enduro, mais alors, je peux vous dire que celui-là, l'enduro, 88 000 km,
tout à fait,
deux ans, c'est notre ami Luc Cotterel. Vous connaissez? Vous connaissez?
Tout à fait. J'ai déjà eu la chance de le rencontrer dans une concession BMW. Il venait de revenir de son périple.
Alors, il y a Luc Cotterel qui avait besoin de quitter son travail, quitter la maison, les proches, pour aller vivre l'aventure. Hein, donc, il a visité 47 pays en Afrique. Et donc, je viens de le dire, 88 000 km sur une BMW 1150 GS. Et il a mis aussi 2 ans pour sortir un double DVD, Guy.
Ah ouais, mais il est bien fait. Hein,
hein. Mais il est bien fait, ouais, hein, ouais. Avec un bon son.
Ouais, oui, oui. Hein, grâce.
Et, non, on ne dit rien du tout.
Ah bon.
On ne dit pas grâce. Voilà, on ne dit pas grâce. Et puis, Luc Cotterel présentera donc son DVD. Et ce sera une espèce de conférence débat, quoi. Il va nous raconter un peu toutes ses aventures, quoi. Et donc, ça se passera le vendredi 23 juin à partir de 19h au restaurant Le Zen. C'est au village moto de Seclin. Voilà, donc Luc, présentation incroyable, aventure en Afrique au guidon de sa BM. Et donc c'est un double DVD, donc il y a 3 heures de film, parce qu'il a voyagé avec une GoPro, voilà, et à chaque fois il a filmé toutes ses aventures, tout son voyage. Donc c'était des milliers d'heures qu'il a valu trier, remonter, avec le son également, recoller le son, l'image, voilà. Donc,
90 000 kilomètres, hein, je pense, il a fait
88 000 kilomètres.
88
000. 8000 km, à 300 km près, je peux pas te le dire, mais ça c'est de l'enduro.
Ouais, c'est du raid là, on est même sur du raid. On est plus sur du raid, la raid donc distance.
Ceci dit, c'est
en
quand
solo,
c'est
en solo,
c'est quand même du chemin, Philippe.
C'est du chemin, c'est de la piste, enfin, là-bas, ça sera de la piste, ouais, tout à fait, mais voilà. Surtout en solo, sans assistance. C'est costaud, quoi.
Nous on a vu le DVD, et sincèrement moi je vous conseille de l'acheter, hein. Je crois que ça vaut 20 euros le DVD, ouais. Il y a des endroits où on se dit mais il a eu de la chance, il a eu beaucoup de chance, voilà.
À cause de rencontres, à cause de...
À cause de plein de choses.
De Kalachnikov, par
exemple. De Kalach, ou de... Voilà. Ou alors, à un moment, on ne voit plus la moto. Enfin, il passe à un espèce de guet. Et il y a de l'eau pratiquement jusqu'au réservoir. Mais la moto tourne encore. Hein. On ne sait pas comment il fait pour s'en sortir. Mais bref, c'est vraiment incroyable. Et donc, je vous conseille... D'abord, je vous conseille de venir donc, le 23 juin, à partir de 19h, au restaurant Le Zen, pour discuter avec lui. Et puis, éventuellement, si ça vous plaît, vous achetez son double DVD. Voilà, l'émission se termine. Guy,
oui,
tu dis au revoir à nos invités.
Philippe et Jean, je vous remercie, enfin on vous remercie de votre présence, et puis comme ça on connaît un peu plus sur l'enduro,
merci.
Sport un peu inconnu pour beaucoup de monde.
Merci voilà. à vous et avec plaisir on reviendra discuter de ce sport passionnant.
Et Philippe, nous on va aller aussi à la fontaine comme Auré qui est actuellement à la fontaine là-bas au Tourist Trophy.
Hein. Super.
On va se déshydrater un petit peu hein, parce qu'il fait chaud devant les studios de Radio Campus.
Merci.
Merci. Au revoir.
Allez, salut. Bonsoir à tous.
Allez, au revoir.